Europe 1, le 22-22-30, Julien Pierce.
Bonsoir et bienvenue sur Europe 1, c'est le journal de la nuit. Levez les yeux au ciel, car l'actualité ce soir est aussi à 200 millions de kilomètres de nous. C'est parti pour 30 minutes d'info. Il est 22h, vous êtes sur Europe 1. Allô la Terre, ici Mars, Persévérance, le robot de la NASA vient à l'instant de réussir son atterrissage sur la planète rouge, une prouesse technique et l'espoir peut-être de découvrir un jour des traces de vie extraterrestre. Explication de notre spécialiste et réaction à la Cité de l'Espace à Toulouse où nous serons en direct. Le variant anglais plus contagieux et peut-être contagieux plus longtemps que la souche classique. En conséquence, la durée d'isolement des personnes testées positives passera de 7 à 10 jours dès lundi. Nous pourrons assister à des festivals cet été, mais à condition de respecter des règles strictes. Pas plus de 5000 spectateurs et tous assis. La condamnation de Georges Tron à 3 ans de prison ferme, même la plaignante qui a été déboutée est satisfaite de ce verdict, nous l'entendrons. Dans ce journal également, une fonderie d'or clandestine découverte dans l'arrière-boutique d'un commerce parisien. La mise en garde de l'UFC Que Choisir aux amateurs de tatouages, 75% des encres utilisées en France seraient potentiellement dangereuses pour la santé. Et puis la Ligue Europa de foot, les Lillois affrontent en ce moment l'Ajax d'Amsterdam, Sébastien Boué.
Et à la seconde période vient tout juste de démarrer, 0-0.
Merci beaucoup Sébastien et à tout de suite. La météo, elle sera demain un peu moins humide, les pluies vont s'éloigner, les éclaircies gagner du terrain, mais attention aux nombreux brouillards au lever du jour, nous dira Anissa Haddadi. La Bourse de Paris, elle a clôturé ce soir en baisse, moins 0,65% à 5728 points. Et tous les détails à venir avec Claire Lemaître de boursier.com. L'interview écho dans 20 minutes, Air France KLM en chute libre, le groupe a perdu plus de 7 milliards d'euros l'année dernière. Pour en parler, Emmanuel Duteil reçoit ce soir le spécialiste de l'aérien Jean-Louis Barou, président du APG World Connect. Enfin, on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Après 7 mois de voyage et un périple de 470 millions de kilomètres, c'est l'heure de la délivrance et elle est heureuse, je vous le disais en titre. Persévérance, le rover de la NASA vient de réussir à se poser sur Mars, a priori sans encombre. On l'a appris il y a tout juste 5 minutes lors d'Autriche et c'est un immense soulagement pour les scientifiques et tous les passionnés de découvertes spatiales car cet atterrissage, il était loin d'être facile.
Ah oui, et quel moment, il y a quelques minutes, tous les ingénieurs aux États-Unis et ici à Paris qui ont applaudi en ayant reçu cette confirmation que le robot s'est bien posé sur Mars. Effectivement, c'était loin d'être facile. On a même reçu, il y a une minute précisément, la première image prise par ce robot de la planète Mars. C'est évidemment, toute première image, pas encore très claire, mais ça montre que déjà, il commence à fonctionner. Oui, c'était difficile, parce que sur Mars, l'atmosphère est extrêmement ténue. On ne peut pas utiliser tout ce qu'on sait faire sur Terre pour freiner, pour atterrir. On utilise plusieurs techniques différentes pour freiner le robot. Il fallait passer de 23 000 km/h à 1 km/h en 7 minutes. Et puis tout était automatique. On ne pouvait rien corriger, ni le largage du bouclier thermique, ni l'éjection du parachute. Donc voilà, on a vu tout cela. Dans les 10 dernières secondes, les roues se sont déployées. Les conditions étaient bonnes pour l'atterrissage sur Mars. Pas de tempête de poussière en ce moment. Il y a du vent, mais comme l'atmosphère est fine, eh bien le robot n'est pas trop perturbé par ces vents. Il va maintenant falloir s'assurer dans les prochaines heures que tout fonctionne correctement et que tous les outils à l'intérieur du robot fonctionnent bien.
Alors ce n'est pas le premier rover américain à s'être posé sur la planète rouge. On pense notamment à Curiosity en 2011, qui est d'ailleurs toujours actif. Laure, qu'est-ce qui différencie Persévérance et surtout quelle va être sa mission principale ?
Alors sa mission, ce sera de trouver des traces de vie, pas de la vie, car il n'y en a pas à la surface. La planète est comme un grand désert, mais il y a 3,5 milliards d'années, on sait qu'il y avait de l'eau liquide à la surface de Mars, des lacs, des rivières. Et le robot, qui vient d'atterrir dans un cratère, était un endroit justement spécialement choisi parce que ce cratère était avant un lac. Alors on est presque sûr qu'il y avait à cet endroit des choses qui ressemblaient à ce qu'on a sur Terre, de la boue au fond du lac, des minéraux, comme des carbonates qu'on a aussi sur Terre. Et puis ce robot, ce qu'il a de différent, c'est qu'il sait où aller, quelles sont les zones dangereuses, les ravins, les rochers à éviter. Et puis l'autre gros atout, c'est qu'il est capable de choisir les meilleurs échantillons, de dire ce caillou est meilleur que celui-ci. Et justement, sa mission, ça va être de mettre des échantillons dans des tubes qu'on va ensuite laisser sur le bord du chemin sur Mars. Et dans quelques années, une autre mission ira les chercher pour les rapporter sur Terre. Mais pour l'instant, on ne sait pas encore redécoller de Mars. Donc, il y a encore toute une technologie à inventer.
Merci beaucoup, Laure d'Autriche, pour cet éclairage complet. Prenons maintenant la direction de la Cité de l'Espace à Toulouse, où cet atterrissage a été scruté avec beaucoup d'anxiété. Et pour cause, des chercheurs toulousains du CNES ont participé à la conception de ce robot. Et on imagine qu'ils sont extatiques autour de vous, Benjamin Péter.
Oh oui, je peux vous le dire. Effectivement, dès qu'on a vu tout à l'heure les applaudissements sur cet écran géant qui retransmettait les images des ingénieurs de la NASA, et bien ici, il y a eu aussi des applaudissements, des cris. Ça voulait dire que ça y est, le rover s'était posé sans encombre. Je suis avec David Mimoun, qui est responsable du microphone sur Supercam, cet équipement qui a été notamment conçu ici. On a donc vu ces images de la NASA qui nous signifient que s'était bien passé comme prévu. Et vous avez explosé de joie, on l'a vu tout à l'heure.
Voilà, tout le monde est très très content parce que il faut vraiment prendre en compte que c'est un travail d'équipe, un travail de longue durée. Et avec un petit peu comme un match à la fin, il y a la sanction qui arrive. Et donc là, on a vu que le rover atterrissait, on a vu les premières images. Donc ça veut dire que notre travail n'a pas été en vain et que la science va pouvoir commencer.
Vous êtes donc le responsable de ce fameux micro qui est embarqué sur le rover. C'est la première fois qu'on va entendre finalement le son de la planète Mars. Ça va servir à quoi en fait ?
Alors, il faut se rappeler que le rover Perseverance est une sorte de petit pousset qui va chercher des échantillons dans ce lac rempli qui est le cratère G0. Alors, ce microphone, la NASA a accepté de l'embarquer parce qu'il va nous aider à sélectionner les meilleurs échantillons simplement en écoutant le bruit que fait la Supercam quand elle analyse ces échantillons avec son laser. Donc voilà, on va pouvoir déterminer quel est le meilleur échantillon à ramener sur Terre. Et puis aussi, on va étudier l'atmosphère de Mars et on va écouter, par exemple, le petit hélicoptère. Enfin, on va faire tout un tas de choses qu'on n'aurait pas pu faire sans un microphone.
Donc là, ça y est, ça peut commencer.
Voilà, maintenant, ça peut commencer. Il va y avoir très bientôt la vérification de tous les instruments. Ça va prendre quelques jours. Il ne faut pas être trop pressé. On va vérifier que tout marche bien, qu'il n'y a pas eu de soucis pendant la croisière et après, que la science commence.
Voilà, merci beaucoup, David. Alors, effectivement, donc, tout s'est bien passé. Maintenant, la Supercam va se déployer. Ça devrait se faire demain soir. Et si tout va bien, les scientifiques devraient pouvoir consulter les premières données en provenance de Mars mardi au petit matin.
Merci beaucoup Benjamin Péter en direct de la Cité de l'Espace à Toulouse pour Europe 1. Noter qu'Emmanuel Macron a suivi ce soir cet atterrissage en direct depuis le siège parisien du CNES.
Écoutez le monde changer. Europe Soir, le 22-22-30.
Retour à des préoccupations plus terriennes avec, comme chaque jeudi soir, le traditionnel point presse du ministre de la Santé. L'heure n'est pas au relâchement, a averti Olivier Véran. Et pour cause, 36% des contaminations sont désormais liées au variant britannique. Un variant plus contagieux et peut-être contagieux plus longtemps que la souche classique. Voilà pourquoi les conditions d'isolement pour les personnes testées positives vont être durcies, comme l'a annoncé le ministre de la Santé.
Certaines études scientifiques évoquent la possibilité que les variants puissent être responsables d'une durée de contagiosité plus importante que celle du Covid-19 classique qui circulait jusqu'alors dans le pays. Sans attendre la confirmation, et dans la mesure où la part de variants dans les contaminations est devenue élevée, j'ai décidé que la durée de l'isolement de tous les patients dont un test diagnostique est positif passera à compter de lundi de 7 à 10 jours. Elle restera en revanche de 7 jours pour les cas contacts.
Olivier Véran, le ministre de la Santé au micro Europe 1 d'Hélène Terzian. Un rendez-vous très important cet après-midi au ministère de la Culture. Réunion entre les directeurs de festivals de musique et Roselyne Bachelot. Entrevue qui s'est terminée par un gros ouf de soulagement. Parce que oui, Angèle Châtelier, on devrait pouvoir assister à des festivals cet été.
Alors déjà, évidemment, si la situation sanitaire le permet, on ne sait pas, on n'est jamais à l'abri de rien, mais a priori, ça serait possible sous plusieurs conditions. Les festivals devront travailler sur une formule de 5000 spectateurs maximum et tous devront être assis. Il faut bien comprendre que c'est une base de travail pour que les professionnels avancent. Gérard Pont, directeur des Francopholies de La Rochelle, était présent à cette réunion. Pour lui, c'est mieux que rien et il est optimiste.
En fonction de l'évolution de la pandémie, si ça s'améliore, on pourra être debout. Si ça s'améliore, on pourra être 6000, 7000, 8000, voilà. Je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Il y aura des festivals d'été. Alors après, évidemment, nous sommes nous dans une configuration particulière en francophonie, puisque tous les artistes habitent ici, hein, donc il n'y a pas d'artistes internationaux. Mais voilà, en tout cas aujourd'hui, je vous confirme qu'il y aura les francopholies de La Rochelle cet été.
Tous ne sont pas logés à la même enseigne. Il y a ceux qui avaient déjà commencé à travailler sur une telle formule, comme les Vieilles Charrues, le Printemps de Bourges. Mais alors pour d'autres, c'est quand même plus difficile de l'envisager. Les festivals de musique électro, par exemple, ou alors 60 000 personnes ont déjà acheté leurs billets pour aller au Hellfest mi-juin. Et puis comme d'autres, hein, les artistes programmés ne sont pas tous français. Alors pourront-ils venir? Il y a encore quelques interrogations, mais la ministre a prévu de revoir les professionnels des festivals tous les mois.
Merci Angèle Châtelier. Et puis notez que le seuil du million de Français vaccinés contre le Covid a été franchi ce soir. Il s'agit des personnes ayant reçu les deux doses du vaccin. Nous l'avons vécu en direct hier soir dans ce journal, la condamnation de Georges Tron à 5 ans d'emprisonnement, dont 3 en ferme. La cour d'assises d'appel de Paris a reconnu le maire de Draveil coupable de viol et d'agression sexuelle en réunion sur l'une de ses anciennes collaboratrices. Georges Tron a en revanche été acquitté pour des faits similaires sur l'autre plaignante, Eva Loubrieux. Elle n'est donc pas considérée comme victime aux yeux de la justice, mais pour elle, l'essentiel, c'est que l'ancien secrétaire d'État soit derrière les barreaux.
Hier soir, j'ai eu un moment de désespoir. En entendant le verdict, je suis sortie du tribunal et M. Tron est arrivé avec les menottes et a été conduit dans la camionnette de la gendarmerie. C'est quelque chose qui restera gravé pour moi. Cette décision a énormément de sens parce que c'est tout un process, c'est tout un comportement qui a été révélé. Et ce verdict est pour moi un peu plus satisfaisant.
Même si vous n'êtes pas reconnue en tant que victime?
Oui, totalement, totalement. Je me sens reconnue en tant que victime et je pense que vraiment justice s'est tenue.
Est-ce que vous êtes dans la vengeance?
Ah non, pas du tout. Non, c'est... Écoutez, c'est pas de la vengeance. Je n'ai plus à avoir peur. Je suis de nouveau une femme libre et j'ai été entendue. Peut-être pas forcément de la manière dont j'aurais pu l'espérer, mais j'ai été entendue. Et aujourd'hui, je me sens libre.
Témoignage recueilli par Guillaume Bié pour Europe 1. On a appris l'ouverture d'une enquête visant Patrick Poivre d'Arvor. L'ancien présentateur star du 20h de TF1 est accusé de viol par une écrivaine. Des faits qui se seraient produits à plusieurs reprises en 2004 et 2009. Accusation que récuse fermement PPDA, selon son avocat. Elle n'a plus donné signe de vie depuis 8 jours. Une mère de famille de 42 ans est activement recherchée en Ille-et-Vilaine, dans le secteur de Montfort-sur-Meux. Environ 150 gendarmes étaient mobilisés aujourd'hui pour retrouver la trace de Magali Blandin, qui n'est pas allée récupérer ses 4 enfants à l'école vendredi dernier. C'est une disparition très inquiétante, juge le procureur de Rennes. Venons-en maintenant à cette histoire qu'Europe 1 vous révélait à la mi-journée. Des policiers ont découvert hier en plein Paris une fonderie d'or clandestine située dans une arrière-boutique. Et à l'intérieur, Gladys Laffitte, il y avait un vrai trésor.
Oui, des bijoux, des montres, des lingots d'or, des pièces d'or et même des diamants ainsi que 125 000 euros en liquide. Et bien sûr, tout l'attirail pour faire fondre tout ce qu'il était possible de faire fondre dans ce précieux butin, suspecté de provenir notamment de vols à l'arraché. Alors le gérant de ce laboratoire photo à l'origine est un Sri Lankais de 55 ans de la communauté tamoule. Il est suspecté de recel de vol, de blanchiment en bande organisée et de travail dissimulé. Et si les policiers se sont intéressés à sa boutique, ce n'est pas par hasard, car il y a une dizaine de jours, une première fonderie artisanale a été découverte dans le sous-sol d'un autre de ses commerces, de textile cette fois. Les enquêteurs de la BRIF, la Brigade de Recherche et d'Investigation Financière, cherchent à connaître la destination finale de ce magot et selon nos informations, il est suspecté d'être un proche des Tigres, le gérant, donc les Tigres, les séparatistes sri-lankais. Il pourrait donc s'agir d'un collecteur pour l'organisation.
Étonnante histoire, merci Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1. Une victoire importante pour la ville de Paris, sa réglementation pour encadrer les plateformes de location comme Airbnb a été jugée conforme au droit européen. Décision favorable de la Cour de cassation qui estime les mesures de la capitale proportionnées et justifiées pour lutter contre la pénurie de logements destinés à la location. Cela va permettre à la mairie de Paris de reprendre les poursuites judiciaires contre 420 bailleurs auxquels elle réclame 21 millions d'euros d'amende au total. Se faire tatouer n'est pas sans danger, selon l'UFC Que Choisir. Dans sa dernière étude, l'association de défense des consommateurs estime que les trois quarts des encres les plus utilisées en France présentent un risque sanitaire élevé. Alors on savait que les tatouages n'étaient pas sans danger, mais on se méfiait plutôt des aiguilles ou de l'hygiène dans les salons de tatouage. En réalité, le plus inquiétant, c'est le produit qui est injecté et qui souvent ne répond pas aux normes sanitaires, comme l'explique Gaëtan Dupin, juriste à l'UFC Que Choisir.
Les résultats de nos tests montrent clairement qu'il y a des risques pour tous les types de couleurs. Un peu moins pour l'encre noire qui est la plus utilisée. Par contre, pour les tatouages de couleur, que ce soit le rouge, le vert ou le jaune, on a des colorants interdits, on a des produits bien identifiés comme cancérigènes qui sont interdits à des seuils plus ou moins élevés. Il y a des réglementations sur le tatouage, mais parmi ces produits qui sont accessibles sur le marché français, on a clairement des lots de produits qui ne respectent pas les différents seuils. Et au nom du principe de précaution, nous souhaitons que les autorités en la matière procèdent au retrait et au rappel des produits dangereux que nous avons identifiés. Le tatouage s'est beaucoup démocratisé ces dernières années, à peu près un tiers des consommateurs entre 18 et 35 ans se sont fait tatouer. Ils doivent se rendre compte que se faire tatouer n'est pas neutre sur le plan sanitaire.
Gaëtan Dupin de l'UFC Que Choisir, joint pour Europe 1 par Zoé Pallier. Il a été question de cyberattaque aujourd'hui à l'Élysée. Emmanuel Macron a annoncé un plan d'1 milliard d'euros pour renforcer les systèmes informatiques des établissements publics et privés. Il faut dire que ces attaques se multiplient ces derniers mois. En l'espace d'une semaine, les hôpitaux de Dax et de Villefranche-sur-Saône ont été totalement papa paralysé par des pirates informatiques. Notez que Florence Parly sera demain matin l'invitée de la matinale d'Europe 1. La ministre des Armées répondra à partir de 8h15 aux questions de Sonia Mabrouk. Et les thèmes ne manquent pas. Opération Barkhane au Sahel ou encore le SCAF, le futur avion de chasse européen, projet et qui est pour l'heure dans la passe. On termine ce journal avec le foot et ce match très important pour le leader du championnat. Lille est en train d'affronter l'Ajax d'Amsterdam en 8e de finale aller de Ligue Europa. Et ça se joue au stade Pierre-Mauroy où l'on vous retrouve en direct, Sébastien Boué.
Oui, 0-0 après l'heure de jeu, mais que c'est compliqué hein, pour les Lillois, largement dominés dans le jeu, privés de ballon par une équipe bien plus forte collectivement, bien plus à l'aise techniquement. Ça va très vite, ça combine à merveille, c'est dans l'ADN hein, tout simplement de l'Ajax. C'est une équipe joueuse, un jeu léché, porté vers l'avant, et les nordistes prennent pour le moment une petite leçon de football des nordistes, voilà, qui n'ont eu aucune occasion, une petite opportunité tout au plus, hein, c'était il y a quelques minutes avec Timothy Weah, et par contre les Néerlandais eux, ont eu trois occasions, et à chaque fois Mike Maignan, le portier lillois, a été impeccable. Voilà les Lillois, si brillants en Ligue 1. On rappelle hein, ils sont quand même leaders de la Ligue 1. Eh bien les Lillois sont tout simplement méconnaissables ce soir sur la scène européenne et semblent un petit peu à court de solutions. Le premier changement vient d'être effectué avec l'entrée d'Arojo, 61 minutes de jeu au stade Pierre-Mauroy, donc 0-0 entre le LOSC et l'Ajax.
Merci beaucoup Sébastien Bouet en direct de Lille pour Europe 1. On vous retrouve Sébastien dans quelques minutes pour vivre avec vous les dernières minutes de cette rencontre. On passe à la météo. Anissa Haddadi, le temps demain sera très gris au lever du jour.
Oui, il va falloir être très prudent hein, si vous prenez la route dans les prochaines heures, puisque les grisailles, Julien, seront très nombreuses. En effet, demain matin, et elles vont concerner toutes les régions sauf la façade est. Alors si vous nous écoutez de l'Alsace aux Alpes, là vous êtes tranquille. Partout ailleurs, il y a des brouillards sur le Val-de-Saône, le Centre-Val-de-Loire et la région parisienne. Ces brouillards seront un petit peu plus épais et surtout, ils seront tenaces toute la journée. Après la dissipation de ces nuages bas matinaux sur le reste des régions, les éclaircies vont se développer sur une grande partie du pays et dans l'ensemble, c'est une journée plutôt lumineuse. C'est au bord de la Méditerranée, du Languedoc jusqu'à la Côte d'Azur que le ciel sera le plus couvert, avec de la pluie dans les Cévennes et toujours ses entrées maritimes. Et puis le vent du sud qui souffle en basse vallée du Rhône. Et puis sur le sud du Massif central, on aura des rafales jusqu'à 70 km/h. Le vent du sud souffle également le long des côtes de la Manche. Il sera accompagné de quelques petites averses sur la Bretagne et le Cotentin. Partout ailleurs, le temps est calme et lumineux. Les températures, comptez 3 degrés à Lille demain matin, 4 pour Paris, 6 à Clermont-Ferrand, 8 à Lyon et 10 à Toulon. Le matin, c'est stationnaire. Dans l'après-midi, ça grimpe un peu avec 12 degrés à Nancy, 13 à Strasbourg, 14 pour Paris et Nîmes, 15 à Lyon, 18 degrés à Albi, 19 à Bordeaux, et c'est dans le sud-ouest qui fera le plus chaud, avec 20 degrés à Mont-de-Marsan, Biarritz ou encore Pau.
Merci beaucoup Anissa Haddadi.
Europe 1.
Restez avec nous dans un instant, toutes les infos de la bourse. Top à Wall Street avec Claire Lemaître de boursier.com, suivi de l'interview Echo. Air France, KLM en chute libre. Le groupe a perdu plus de 7 milliards d'euros l'année dernière. Pour en parler, Emmanuel Duteil reçoit dans quelques minutes le spécialiste de l'aérien Jean-Louis Barou, président du APG World Connect. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h20 sur Europe 1, bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre, c'est l'heure de Top à Wall Street.
Retrouvez Top à Wall Street avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
Toutes les infos de la bourse avec Claire Lemaître de boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Julien.
La bourse de New York perd du terrain ce soir. Les investisseurs prennent leurs bénéfices alors que les indices ont récemment enchaîné les records historiques.
Oui, les marchés sont un peu plus prudents. Le Dow Jones perd 0,38%, 31 493 points. Le Nasdaq, moins 0,72%, 13 865 points. Les investisseurs prennent leurs bénéfices notamment sur les valeurs technologiques qui sont montées très très haut. Apple perd 0,8%, Facebook moins 1,5%, Tesla moins 1,3%. Walmart pèse aussi ce soir, le titre chute de 6,5%. Le numéro 1 mondial de la distribution qui emploie 1,5 million de personnes aux États-Unis a réalisé de très bonnes ventes fin 2020, mais ce sont les prévisions qui déçoivent. Le pétrole marque une petite pause après son ascension, moins 0,6% pour le WTI, $60.80. Le Bitcoin n'en finit plus de grimper. Il a passé ce soir la barre des 52 000 $. Et puis l'euro, lui, se contente d'une hausse de 0,4%, $1.20.83.
L'année 2020 a été difficile pour de grandes entreprises comme Airbus ou Orange. Et leurs résultats annuels ont pesé sur le CAC 40 aujourd'hui.
Oui, le CAC 40 termine en baisse, moins 0,65%, 5 728 points. Le titre Airbus a en effet pesé aujourd'hui. L'avionneur a évidemment beaucoup souffert de la crise sanitaire. Il reste très prudent pour cette année, alors que peu d'avions volent à cause des restrictions de voyage. Le titre Airbus lâche 2,8%. Ce soir, les résultats sont mauvais aussi pour Air France KLM, sans surprise. Le titre limite la casse en petit repli de 0,3%. Et puis Orange perd 2,6% après ses comptes.
Air France KLM qui sera l'objet de l'interview Echo juste après vous. Carrefour a en revanche publié des résultats de très bonnes factures.
Oui, le distributeur a profité notamment de l'évolution de la consommation. Ses clients passent beaucoup plus de temps à la maison avec la crise. Ils ont donc augmenté leurs dépenses alimentaires. Le titre Carrefour a gagné jusqu'à 3,5% aujourd'hui, mais il termine en baisse de 0,6%. Les marchés européens ont fini dans le rouge ce soir. Londres perd 1,4%, Francfort moins 0,2%, Milan moins 1,1%, Madrid moins 0,8%, moins 0,6% à Paris pour le CAC 40 qui clôture à 5 728 points.
Merci Claire Lemaître de boursier.com et à demain Claire. 22h22 sur Europe 1, on passe à l'interview Echo. Emmanuel Duteil, c'est à vous.
Bonsoir Jean-Louis Barou.
Bonsoir.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le président d'APG World Connect et vous êtes surtout un grand spécialiste de l'aérien. Et c'est pour ça que nous avons voulu être en ligne avec vous ce soir. Air France a annoncé ce matin des chiffres qui donnent le tournis pour le compte de l'année 2020. Le groupe a perdu plus de 7 milliards d'euros, c'est tout simplement du jamais vu, c'est bien évidemment la faute au Covid. Ce chiffre fait quand même très très peur. On peut se relever quand on est Air France d'une telle crise ?
C'est une excellente question. Peut-on se relever de cela ? Je rappelle quand même que Air France ne s'en relèvera pas tout seul, c'est parfaitement clair. Il faudra l'aide de l'État. Est-ce que l'État est légitime pour aider Air France à se relever, ça me semble tout à fait raisonnable.
Et surtout, la question qui se pose, c'est combien l'État va-t-il devoir mettre pour sauver Air France, l'État français, mais également l'État néerlandais, puisque pour ceux qui l'auraient oublié, c'est une compagnie franco-néerlandaise, Air France, KLM. Là, on parle de milliards d'euros, puisque j'aurais pu citer un autre chiffre, celui de la dette d'Air France, 11 milliards. C'est impressionnant pour une compagnie qui vaut un peu plus de 2 milliards d'euros en bourse.
Vos questions sont formidables et vous avez mille fois raison. L'affaire est extraordinairement compliquée. D'une part, la dette cumulée d'Air France, 11 milliards, c'est d'ailleurs un petit peu au-dessous de ce qui était attendu. On attendait à la frange de 11,5-12, on est plutôt à 11, pour un chiffre d'affaires d'Air France qui est 14 milliards d'euros par an. Je rappelle, le groupe faisant 27. Et dans cette affaire-là, la capitalisation boursière, comme vous dites, Air France, est de l'ordre de 2,5 milliards. Et l'État ne voudra pas laisser tomber. C'est cette compagnie-là. Comment l'État va-t-il pouvoir injecter 3 milliards d'euros dans les fonds propres d'Air France sans monter en majorité au capital? C'est un vrai sujet, extrêmement compliqué, extrêmement difficile. Il faudra que les experts de Bercy soient extrêmement performants pour arriver à résoudre la situation.
C'est par ailleurs un dossier qui est regardé de très près en ce moment par la Commission européenne. La Commission européenne qui semble vouloir des contreparties à une éventuelle aide d'État. Des contreparties qui pourraient être très coûteuses pour le groupe Air France KLM, puisque ça pourrait passer, en tout cas c'est ce qui circule, c'est ce qui se raconte, par l'obligation de céder des créneaux aériens, notamment au départ de Paris-Orly. Ces créneaux sont des créneaux très lucratifs. Est-ce que du coup, là, ce ne serait pas régler le mal par le mal?
Je trouve que c'est rigoureusement insupportable. Après tout, si pour des raisons culturelles, on va dire la Commission européenne veut laisser de la place à la concurrence, au lieu de demander à Air France de supprimer 9 000 créneaux horaires à Orly, on n'a qu'à créer 10 000 créneaux horaires supplémentaires à Orly. Ça n'embêtera personne et ça arrangera tout le monde.
Mais est-ce que de cette crise, on ne peut pas se relever qu'en faisant une grosse concentration au niveau européen? Puisque ce que révèle cette crise, c'est qu'il y a peut-être aussi trop de compagnies en Europe. Quand on voit les milliards d'euros perdus par tous les grands noms, vous citiez Lufthansa, mais on pourrait en citer plein d'autres. Est-ce qu'il ne faut pas se concentrer pour repartir plus fort?
Je ne crois pas un instant que les États accepteront de ne pas avoir leur propre transporteur aérien. Chaque État a besoin de son vecteur de transport national. Et donc, je serais extrêmement surpris que les États abandonnent de cette prérogative.
Mais du coup, d'après vous, quelle est la clé quand même pour pouvoir repartir? C'est-à-dire qu'il faut s'attendre à des plans de licenciement massifs dans les compagnies aériennes. C'est déjà en cours, hein, par exemple, chez Air France. Mais est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce qu'il faut faire plus de réduction de coûts? Parce qu'on sait que ça va mettre du temps à repartir.
Ce qui est curieux quand on regarde les chiffres d'Air France, c'est que la recette aux passagers kilomètres transportés a baissé, alors que les coûts aux sièges kilomètres offerts ont augmenté. C'est un vrai sujet. Et il est clair que les compagnies legacy devront faire, les grandes compagnies européennes, devront faire encore de gros efforts de façon à ramener leurs coûts à des niveaux proches, des low cost, mais pas très loin de ceux des low cost. Je rappelle quand même que les low cost sont performants sur du court et moyen courrier, sur de longs courriers, ils le sont beaucoup moins.
Oui, on a vu que ceux qui ont essayé, comme Norwegian, sur du continent européen jusqu'aux États-Unis, ont abandonné faute de rentabilité sur ce genre de marché. Malgré tout, est-ce qu'il faut s'attendre pour nous, les clients, à des billets tout simplement plus chers parce que les compagnies vont avoir besoin de se renflouer?
Il me paraît évident que après une baisse très momentanée des coûts, parce qu'il va falloir reconstituer les trésoreries, je pense que les compagnies aériennes seront inéluctablement amenées à retrouver des fondamentaux et au lieu de courir au volume du nombre de passagers, ils vont devoir courir à la rentabilité. Et pour cela, les prix devront inéluctablement augmenter. Avoir transocéanique, on va dire transatlantique, à moins de 500 euros, c'est un non-sens économique. Il va falloir retrouver les bons critères économiques.
Eh bien, on suivra tout ça. Un grand merci pour tous ces détails. Jean-Louis Barou, grand spécialiste de l'aérien, à la tête aujourd'hui d'APG World Connect. Merci à vous. Nous, on se retrouve demain, 22h20 sur Europe 1.
Merci beaucoup, Emmanuel Dutheil. On vous retrouve également demain à 13h dans La France Bouge avec Carole Ferry. Vous nous parlerez mobilier de jardin. Tiens, secteur qui ne connaît pas la crise. Au contraire, car avec le Covid, les Français ont envie d'embellir leur jardin ou balcon. Vous en parlerez avec Bernard Rébier, le PDG de Fermob.
C'était l'invité éco avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
22h28 sur Europe 1 et voici donc ce que vous pourrez lire demain à la une de vos journaux. Le patron d'EDF sonne l'alarme, c'est le titre à la une des Échos qui publie une interview de Jean-Bernard Lévy. Le PDG y alerte sur le risque de déclassement d'EDF en Europe car faute de moyens pour investir, l'énergéticien français ne suit pas la cadence de ses concurrents dans le solaire et l'éolien. Pour Jean-Bernard Lévy, il n'y a que deux solutions, hausse des prix de vente de l'électricité nucléaire et réorganisation d'EDF. Le fameux plan Hercule qui suscite tant de critiques de la part des salariés. Libération consacre sa une aux cyberattaques, l'autre virus, titre Le Quotidien. Depuis le début de l'année, 7 établissements de santé ont été victimes de rançongiciels avec un impact direct sur la prise en charge des patients. On ne tire pas sur une ambulance, écrit Dov Alphon, et pourtant c'est exactement ce qui s'est passé lundi, par exemple, à l'hôpital de Villefranche-sur-Saône. Un pirate informatique a bloqué les données de tout le groupe hospitalier, exigeant une rançon pour les débloquer. Si Emmanuel Macron a annoncé aujourd'hui un plan d'1 milliard d'euros, il en va aussi de la responsabilité individuelle du personnel hospitalier qui doit accroître sa vigilance en matière de mots de passe et logiciels à distance. Vu que désormais on tire sur des ambulances, mieux vaut donc les blinder, conclut l'édito de Libération.
C'était les Unes du lendemain avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
Et comme promis, on conclut ce journal de la nuit avec le foot, la Ligue Europa, 8e de finale aller entre Lille et l'Ajax d'Amsterdam et les Dogs qui viennent d'ouvrir le score, Sébastien Boué.
Exactement, et c'est un petit peu la surprise ici au Stade Permorois. But inscrit par Timothy Weah à la 72e minute contre le cours du jeu. Tant les Lillois sont dominés. C'est vrai que dans le jeu, il n'y a pas photo. Hein, les Néerlandais sont largement au-dessus. D'ailleurs, les Lillois ne s'étaient pas procuré la moindre occasion. Et puis, il a fallu vraiment une grosse erreur de la défense néerlandaise. Une passe mal appuyée du latéral gauche vers son gardien, Timothy Weah. Eh bien, René par là, il s'empare du ballon. Il va tromper et il va mettre le ballon tout simplement au fond des filets. Voilà, contre le cours du jeu. Bien les Lillois, pour l'instant, réussissent à prendre l'avantage et mènent 1-0 face à l'Ajax.
Merci beaucoup Sébastien Boyer, en direct du stade Pierre Mauroy à Lille pour Europe 1. Bonsoir Olivier Delacroix.
Bonsoir Julien.
Vous allez bien ?
Tout va très bien.
Ben bah oui, Lille est en train de gagner, le PSG a déjà gagné et on s'est posé sur Mars.
Eh bah, ben écoutez, c'est pas mal déjà.
C'est exact, c'est fantastique.
Qui aurait parié dessus là ?
Pas moi en tout cas. 39-21 pour vous appeler et témoigner dans la libre antenne qui débute maintenant et ça jusqu'à 1h du matin.
Exactement, et nous on se retrouve dans une petite demi-heure pour votre flash Julien.
À tout de suite.